Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur l'art comme vecteur de puissance géopolitique et sur le rôle de plus en plus crucial de la culture comme partie intégrante des relations internationales. L'art, un outil essentiel de domination pour les États et les entreprises privées. Notre invité est Antoine Pecker, journaliste spécialisé en politique et économie de la culture, directeur de la rédaction de la Lettre du Musicien et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'un atlas de la culture intitulé « Du soft power au hard power, comment la culture prend le pouvoir » aux éditions Autrement. Antoine Pecker, bonjour.
Bonjour.
La culture a toujours servi la diplomatie des États en tant que soft power, mais elle est devenue en quelques années, écrivez-vous, un hard power. Elle est au cœur des batailles géopolitiques. Comment expliquer son importance actuelle ?
Alors, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que, en l'espace de 20 ans à peu près, les guerres, au sens traditionnel du terme, ont diminué de moitié. Mais ça ne veut pas dire que les autres conflits ont disparu. Il y a quantité d'autres conflits. On pense notamment aux guerres commerciales. Pensez à l'exemple entre les États-Unis et la Chine. Et aussi des guerres, parce que c'est bien le mot qu'il faut employer, des guerres culturelles. Ce que je montre dans cet atlas, c'est qu'effectivement, on est passé non plus d'un soft power, l'appellation est devenue bien trop tranquille. Il n'y a plus de douceur, cette fois-ci, dans l'utilisation de la culture par les États, mais une culture qui devient de plus en plus offensive. Et ça, je le montre vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois comment les États utilisent la culture pour affirmer leur pouvoir. C'est le cas de la Chine et de quantité d'autres pays. Les pétromonarchies du Golfe en sont un très bon exemple. Mais aussi comment la culture, elle devient un vecteur très fort pour ceux qui s'opposent au pouvoir établi. Il y a quelques semaines, j'étais en Biélorussie. Et ben, ce sont les artistes qui sont en première ligne dans le pays pour justement faire tomber Alexandre Loukachenko. On pense à Svetlana Alexievitch, l'écrivaine, bien sûr, mais également Maria Kolesnikova, qui est une musicienne qui a déchiré son passeport restant ainsi en Biélorussie. Donc on voit que vraiment les artistes sont en première ligne aujourd'hui aussi pour vouloir faire tomber des régimes. C'est le cas également en Afrique. Pensez que l'un des principaux opposants à Museveni en Ouganda, c'est un rappeur, Bobby Wine.
Alors c'est intéressant ce passage en première ligne des artistes que vous soulignez. Les intellectuels ont disparu ?
Effectivement, on voit par exemple que l'une des plus grandes instances qui est consacrée à la culture, en grande agence onusienne, c'est l'UNESCO. L'UNESCO, elle a été créée autour des intellectuels, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'intellectuels à l'UNESCO et c'est devenu un outil de manipulation politique. Donc, on voit qu'effectivement, finalement, peut-être ces outils dominés par les intellectuels ont laissé place à d'autres types d'institutions où la manipulation politique est plus importante. Mais par contre, que sur le terrain, eh ben, les artistes sont bien présents. Il faut aller en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, pour se rendre compte combien les concerts sont de plus en plus des meetings pour dénoncer les politiques autoritaires des États, mais aussi pour affirmer des volontés de liberté d'expression. Donc c'est sur le terrain culturel aujourd'hui que se joue une grande partie du renouveau politique.
Alors Afrique, et vous le soulignez, continent où se trouve le plus grand nombre d'artistes voulant prendre le pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de protester, de manifester, mais il y a une intention derrière la prise de pouvoir. Alors on l'a vu pour Haïti, ça n'a pas forcément été un grand succès.
Exactement. Le cas d'Haïti, espérons qu'il ne fasse pas jurisprudence, mais effectivement, il a interpellé parce que parfois, les artistes, même armés des meilleures convictions, n'ont pas forcément l'expérience, le background politique. Mais cela n'empêche pas aujourd'hui de voir justement des artistes qui se forment de plus en plus, qui passent par différentes strates. On l'a vu aussi, par exemple, en RDC au moment de la précédente élection, où le porte-parole de Martin Fayoulou, l'autre candidat, alors pour certains c'est lui qui aurait dû gagner, on sait que c'est quelque chose qui a fait de nombreux débats, en tout cas aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir en RDC, mais Martin Fayoulou avait lui comme porte-parole un rappeur, Lexus Legal, avec qui je me suis entretenu à plusieurs reprises, comme nombre d'artistes engagés présents que je mentionne dans ce livre, dans le chapitre Afrique. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit que maintenant, de plus en plus, ces artistes se forment à la question politique. C'est qu'effectivement, au début, il y avait une forme un peu d'amateurisme, d'envie armée des meilleures convictions, mais on sentait pas forcément toujours une compétence derrière. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une volonté d'aller se former, d'aller s'entretenir, aussi parfois en dehors des frontières, en tout cas, de se nourrir de ces expériences pour affirmer des meilleures compétences politiques.
Alors, on reviendra sur la question de l'Afrique. Je rebondis sur ce que vous évoquiez précédemment, la relation entre artistes intellectuels, artistes donc qui se mettent aujourd'hui en première ligne. Vous avez la dent dure, Antoine Pecker, sur l'UNESCO. Vous parlez de son poids bien plus politique qu'intellectuel, vous l'avez évoqué, instrumentalisé par les États. Et l'UNESCO, selon vous, ne sert plus à rien sauf à donner des gages au pire régime de la planète. Explication.
Mais exactement, quelle tristesse aujourd'hui. La situation de l'UNESCO, elle est vraiment dramatique. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je pense, très clairement. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que l'UNESCO, donc on l'a dit au départ, ça a été une réunion d'intellectuels, donc quelque chose de vraiment très positif, mais peu à peu, en fait, la dimension scientifique, d'expertise, est passée finalement à l'as. Pourquoi ? Parce que on va prendre l'exemple des sites. Tout le monde va visiter des sites labellisés à l'UNESCO, le patrimoine, qu'il soit
patrimoine
matériel,
mondial,
immatériel,
de...
exactement. On aime aller voir un site parce qu'il est labellisé à l'UNESCO. Mais comment ils sont labellisés, ces sites ? Ben moi, je suis allé mener l'enquête et c'est absolument ahurissant.
C'est-à-dire
qu'il y a des experts qui vont évidemment donner leur aval ou pas pour dire tel site doit être labellisé pour des raisons historiques ou autres. Mais en aucun cas, en fait, ces experts ne sont suivis ou pas. C'est-à-dire que dans plein de cas, les experts peuvent dire ce site ne doit pas être labellisé, mais il va l'être. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu politique. Je te labellise tel site, et ben en échange, un pays va labelliser tel autre site. Et c'est devenu un outil où en fait les pays se font une sorte de marchandage politique. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'en labellisant un site, ben derrière c'est une attractivité accrue, et ben c'est des conséquences sur l'économie, l'attractivité du territoire. Donc aujourd'hui, on a cette situation complètement absurde avec quantité de sites. D'ailleurs, le nombre montre bien qu'il n'y a plus de sens même à la labellisation. Il y a des sites absolument partout. Et puis surtout, c'est intéressant de voir que l'un des pays qui a le plus de sites aujourd'hui à l'UNESCO, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce que le vrai patron à l'UNESCO, c'est la Chine. C'est la Chine qui arrive à labelliser le plus de sites pour affirmer en fait une culture, la culture Han de l'ethnie majoritaire, et ainsi mettre à mal les cultures minoritaires, les cultures tibétaines, les cultures ouïghours ou autres. Et cela avec la complicité totale de l'UNESCO qui, je rappelle, est installée à Paris, dirigée par une Française, Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture. Mais non, le vrai patron de l'UNESCO, c'est la Chine, comme dans énormément d'agences onusiennes. On a parlé évidemment du rôle de la Chine à l'OMS et dans quantité d'agences internationales. Eh bien, à l'UNESCO, c'est également le cas. Et un petit exemple, parce qu'il est anecdotique, mais il est terrible pour nous qui croyons dans la presse et dans les médias. Eh bien, le journal de l'UNESCO, il a été relancé avec l'argent de la Chine. La Chine, qui est aujourd'hui l'un des pires exemples en matière de liberté de la presse et qui se permet de financer le journal de l'UNESCO. Quel meilleur exemple ?
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, à travers votre atlas, Antoine Pecker, on voyage à travers les continents, vous y décryptez cette nouvelle donne géopolitique, vous décrivez les nouvelles routes commerciales de la soie comme un méga projet culturel, la construction des musées comme un programme au cœur des rivalités entre pétromonarchies du Golfe, ou encore les pays du groupe de Visegrad comme récipiendaires importants des fonds structurels européens mis au service des armes et des arts placés sous contrôle par des régimes nationalistes d'Europe centrale qui sont eux aussi plutôt eurosceptiques. Alors la culture a la genèse des stratégies internationales. Et vous le soulignez, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le groupe chinois Poly est leader à la fois en vente d'armes et en vente d'œuvres d'art.
Exactement, vous voyez, c'est bien, c'est l'idée de guerre à tous les sens du terme. C'est vraiment intéressant parce que la Chine est aujourd'hui passée sur une diplomatie extrêmement offensive, pour pas dire agressive. On le voit au quotidien. Et ils ont bien compris, le pouvoir chinois, et Xi Jinping l'a compris, que la culture, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de faire une sorte de soft power, comme ça a été le cas avant, avec Hu Jintao ou avec d'autres dirigeants chinois. On avait une culture chinoise plutôt jolie, qui était vraiment là pour essayer d'enjoliver les choses. Mais avec Xi Jinping, on passe à une toute autre vitesse. Cette fois-ci, c'est une vitesse supérieure, bien plus agressive. Et par exemple, l'immense projet des nouvelles routes de la soie, alors bien sûr qui est un petit peu mis au ralenti avec la crise du coronavirus, mais il n'empêche, cet immense projet, projet pharaonique, eh ben, il a une dimension culturelle forte. Il faut savoir qu'il y a des alliances d'universités qui vont depuis la Chine à travers le monde liées à ce projet des routes de la soie, aussi des alliances de théâtre qui vont jusqu'au théâtre français, et ainsi de suite. Pourquoi, en fait, pour permettre, en créant ces partenariats, à ce que les pays qui pactisent avec la Chine ont ensuite bien du mal à critiquer, pointer du doigt, eh ben, la politique de la Chine, par exemple, à l'égard des minorités, des Ouïghours ou des Tibétains.
Alors, Pour aller plus loin, Anton Pecker, qu'est-ce que l'on peut dire de la variation des motivations des acteurs selon les continents? Pour résumer ce que vous dites plus sur la longueur, dans les pays du Golfe, la culture permet à des régimes liberticides de se racheter une image dans les instances internationales. Ça va être intéressant que vous nous parliez des rivalités entre Abu Dhabi, Dubaï, et puis la question de la France avec le Louvre Abu Dhabi. Chez les dragons asiatiques, elle est liée, vous le disiez, à une dynamique commerciale expansionniste. Et en Europe centrale, elle accentue l'alliance entre des politiques identitaires. Est-ce que il y a des motivations, ou est-ce que, autrement dit, les régimes populistes ou les régimes autoritaires ont compris quelque chose que les gouvernements libéraux n'ont pas compris en matière de culture?
Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, on voit que, si on regarde d'un point de vue purement budgétaire, ce sont très souvent les régimes autoritaires qui vont accorder le plus de moyens à la culture. On le voit notamment en Europe, hein, le pays en Europe, dans l'Union européenne, qui met proportionnellement à son budget le plus d'argent dans la culture, c'est la Hongrie de Viktor Orban. Et ce n'est pas un hasard. Au même moment, vous avez aussi en Turquie Erdogan qui dit de manière très simple, ce qu'on n'arrive pas à obtenir par les armes, on l'obtient par les arts. Donc on voit que dans ces pays autoritaires, il y a bien une idée que quand on investit de l'argent sur la culture, énormément, et derrière, c'est un levier politique extrêmement puissant et même géopolitique. Donc c'est une culture évidemment aux ordres, mais très intéressant à analyser. De l'autre côté, les pays qu'on dirait démocratiques ou dans une optique plus libérale, en fait, ont compris, notamment dans la lignée des États-Unis, que très souvent la culture, on pouvait davantage la passer dans la sphère privée, c'est-à-dire que c'était les mécènes, la philanthropie qui s'en occupaient. Mais malheureusement, là, on en a un petit peu la démonstration limite aux États-Unis, parce qu'on voit avec la crise du Covid qu'aujourd'hui, l'économie de la culture est totalement à l'arrêt outre-Atlantique. Pourquoi ? Parce que en laissant juste au privé la conduite de ce secteur, c'était la volonté encore plus accentuée par Donald Trump. Je rappelle que Trump a voulu, il ne l'a finalement pas obtenu, mais il voulait la suppression de l'Agence fédérale pour la culture aux États-Unis, pour dire vraiment la culture est une chose entièrement, à laisser entièrement aux mains du privé de la philanthropie. Or, évidemment, la philanthropie a elle aussi ses intérêts, et il faut pas non plus oublier que c'est une aide indirecte quand même de l'État, puisqu'il y a des dispositifs fiscaux très avantageux, et donc, comme le dit très bien le chercheur Rob Reich, finalement, ce sont vous et moi qui payez la préférence culturelle des plus riches à travers ces aides fiscales.
Géopolitique. Alors, on reviendra sur la question des États-Unis et peut-être de la post-crise sanitaire et ses conséquences de la pandémie sur la question de la culture. Je rebondis sur l'Europe avec vous, Anton Pecker. Quelle place pour l'Union européenne sur le terrain culturel? Et au-delà, le Brexit, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les arts?
Alors déjà, en Europe, il y a, on dirait, un bras armé de la politique culturelle de l'Union qui s'appelle Europe Créative. Europe Créative, c'est 0,015% du budget de l'Union, c'est-à-dire vraiment un grain de sable. Mmh. C'est ce qui va permettre notamment de financer les programmes liés au cinéma, au spectacle vivant. Donc ça représente à peu près 1,5 milliard pour le programme culturel. Mais en fait, la part la plus importante dédiée à la culture par l'Europe, c'est à travers les fonds structurels. Mmh. Vous en avez rapidement parlé, mmh, mais c'est important de savoir que ces fonds structurels, c'est ce qui permet la construction des équipements culturels dans les pays les plus en retard, entre guillemets, économiquement.
Donc c'est pour ça retrouve l'Europe centrale et l'Europe orientale.
Exactement, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire les pays eurosceptiques, c'est eux qui profitent des fonds européens pour construire des salles. Allez voir en Pologne, il n'y a pas une ville en Pologne qui n'a pas une salle de concert dernier cri absolument splendide. Partout, il y a des auditoriums, comme il n'y en a pas de cette qualité-là, en France, en Espagne ou en Italie. C'est absolument incroyable. Après, la gestion, le fonctionnement est plus compliqué, mais en tout cas, les équipements.
Parce que ce sont des salles qu'il faut remplir.
Exactement, faut remplir et faut les faire vivre, et ça a évidemment un coût. Mais donc ça, c'est très intéressant à analyser. Les fonds structurels, c'est à peu près 8,5 milliards qui vont pour la culture. Donc en tout, il y a 10 milliards d'euros que l'Union européenne donne à la culture. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une refondation de la politique européenne de la culture. Et notamment dans le cadre du plan de relance. Il y a un plan de relance qui est de 750 milliards. On a vu combien il a été compliqué à accoucher, ce plan.
Mais cette fois-ci, sur l'ensemble des secteurs, on est
exactement
d'accord.
Et là-dedans, il y a notamment Monika Grütters, qui est la commissaire allemande en charge de la culture, qui appelle à ce que 1 à 2% de ce montant soit dédié à la culture. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans le contexte de crise sanitaire, cette crise sanitaire sanitaire, elle affecte tout particulièrement le secteur culturel qui est à l'arrêt, ou bien on voit la timidité de la relance de ce secteur. Donc on a besoin que l'Europe parle d'une seule voix pour la culture et qu'une partie non négligeable de son de relance soit dédiée à la question culturelle.
Alors, et la question du Brexit, je me permets de la reposer. Est-ce qu'on va voir le Royaume-Uni se tourner davantage vers les États-Unis et vers l'Asie? Est-ce que Paris pourra éventuellement tirer des bénéfices avec un rôle plus moteur dans l'art contemporain suite au Brexit?
Vous avez vu, de plus en plus, Boris Johnson parle d'un no deal en matière de Brexit. Mais c'est très intéressant, en tout cas, pour la question culturelle. Pourquoi? Parce que on pourrait dire d'un côté, le Brexit, ça va empêcher aux artistes de se déplacer comme c'était le cas avant, dans l'Union européenne et ainsi de suite. Donc, freiner les tournées, la mobilité des artistes, des musiciens, des acteurs. Ça, c'est une partie. Mais de l'autre partie, il y a le marché de l'art qui est extrêmement puissant. Or, ce marché de l'art, il pourrait tirer profit du Brexit. Pourquoi ? Parce que finalement, la Grande-Bretagne pourrait devenir une sorte de paradis fiscal et ainsi avoir des dispositifs encore plus avantageux pour le marché de l'art. La Grande-Bretagne, c'est un pays qui a toujours été très important dans le marché de l'art. Donc, on voit qu'il pourrait être encore plus, parce que là, il ralentit quelque peu, ce que je montre dans les infographies de l'Atlas. Il y a un ralentissement ces dernières années. Il pourrait vouloir reprendre un petit peu du poil de la bête et ainsi devenir plus important dans ce domaine-là. Et on sait que les dispositifs fiscaux sont extrêmement importants pour ce marché.
Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne sur le plan des arts que cette question du Brexit, Anton Pecker, pour vous résumer.
Alors, effectivement, il faut aussi voir avec la situation avec Hong Kong. Hong Kong qui est une grande place forte pour les arts et qui vit l'instabilité que l'on sait, bien sûr, avec la volonté de la Chine de mettre de plus en plus la main sur l'ancienne colonie britannique. Il y a ça d'une part. Et puis, il y a aussi la réaction, vous l'avez dit, de la France et d'autres pays qui peuvent vouloir aussi reprendre une position sur le marché de l'art. Il est intéressant de voir qu'au Bourget, l'aéroport du Bourget, est en train d'être construit un immense coffre-fort pour des œuvres d'art. C'est un peu passé inaperçu dans la presse, pourtant c'est spectaculaire. Je suis allé voir le chantier. L'idée, ça va être de permettre à tous les collectionneurs de mettre des œuvres d'art en toute sécurité. Certains diront, mais c'est un port franc, comme il y en a à Genève, à Luxembourg.
Absolument.
Alors l'appellation ne peut pas s'entendre de cette façon-là pour des questions légales, juridiques, mais ça en a tous les atours.
Donc on prépare l'après-Brexit au Bourget, qui, on peut le rappeler, est un aéroport petit, situé au nord de Paris, donc proche de l'Angleterre.
Exactement, et où il y a tous les jets des hommes d'affaires qui arrivent. Donc la localisation géographique est absolument parfaite. Il y a la galerie Saatchi aussi, tout est fait pour les milliardaires.
Alors, la culture levier puissant, on parlera de l'Afrique dans la deuxième partie de l'émission. Je voudrais juste, pour terminer cette première partie, évoquer la Russie dont vous parlez, en soulignant l'importance de l'art dans la stratégie militaire de la Russie. On en revient à ce que vous évoquiez précédemment, la question des arts et de la culture comme armes pour les uns et les autres. Et vous nommez les combats menés par l'armée russe en Ossétie, en Syrie, en Ukraine, en Crimée, accompagnés par des concerts dirigés par Valéry Gergiev, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est un proche de Vladimir Poutine, et puis un centre d'art désormais en construction à Sébastopol, principale ville de Crimée. Et puis il y a eu aussi la libération de Palmyre par les forces syriennes avec l'appui de l'armée russe, marquée par un concert. Elle est assez atypique, la Russie, dans cette façon de marquer son territoire à travers alors la musique.
Exactement, à travers la musique, à travers les arts. Il ne faut pas oublier l'héritage communiste, bien sûr, toute l'histoire communiste, avec le fait que c'était Staline lui-même qui écrivait des critiques de concerts dans la Pravda, sous pseudonyme, bien évidemment,
pour dire s'il aimait
ou s'il n'aimait pas. Exactement. Donc il y a eu toujours cette histoire-là, et dans laquelle s'inscrit d'une certaine façon Poutine, qui n'a pas oublié cette importance diplomatique de la musique en particulier. Pourquoi la musique ? Parce que tout simplement, elle n'a pas de langue. Le théâtre, évidemment, va être un petit peu plus limité, mais la musique permet évidemment d'être dans une expansion beaucoup plus importante. On le voit d'ailleurs dans un autre chiffre que je donne dans l'Atlas, c'est la musique qui est la forme d'art le plus confrontée à la censure dans le monde. Et donc pour la Russie, Poutine a eu l'idée de s'associer tout spécifiquement à un chef d'orchestre qui s'appelle Valéry Gergiev, qui dirige le Mariinsky de Saint-Pétersbourg. C'est un immense opéra, plusieurs salles de concert, presque une ville dans la ville, mais qui ne se limite pas à Saint-Pétersbourg. Valéry Gergiev fait des tournées dans le monde entier, et c'est lui notamment qui, dès qu'il y a un conflit où l'armée russe est en première ligne, Valéry Gergiev, avec ses musiciens, vont donner des concerts, vont pouvoir ainsi faire toute une opération auprès de la population, aussi auprès des médias notamment occidentaux, pour montrer que la musique, c'est aussi un outil très diplomatique.
On vous retrouve, Antoine Pecker, après le journal. À tout de suite.
Priorité géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur l'art comme vecteur de puissance géopolitique et sur le rôle de plus en plus crucial de la culture comme partie intégrante des relations internationales. Nous retrouvons Antoine Pecker, journaliste spécialisé en politique et économie de la culture, directeur de la rédaction de la Lettre du Musicien et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'un atlas de la culture intitulé « Du soft power au hard power, comment la culture prend le pouvoir » aux éditions Autrement. On va parler Afrique, Antoine Pecker. L'Afrique, vous le dites, la culture y est devenue un enjeu fondamental au cœur même des tensions géopolitiques du continent, le rapport de force avec les anciennes puissances coloniales, l'essor de la Chine-Afrique, la sortie des économies de rente. L'avenir y est très certainement marqué par une reprise en main de plus en plus forte de ce secteur par les Africains eux-mêmes, comme le montre la question de la restitution des œuvres d'art. Elle est au centre de la relation entre pas mal d'anciennes colonies et l'Afrique, et je pense à la France, bien sûr, Antoine Pecker, cette question de la restitution.
Bien sûr, et c'est vraiment un sujet hautement politique et qui fait débat au sein même des artistes africains, parce qu'il y a effectivement ceux qui défendent plus que jamais cette restitution, et on voit qu'elle commence à être en cours, il y a les premières livraisons qui ont lieu, et de l'autre, il y a certains artistes qui disent « attention, méfions-nous, on n'a pas encore en Afrique toutes les infrastructures pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions ces objets très souvent précieux ». Donc le débat est vraiment passionnant. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel que maintenant les puissances, notamment européennes, arrivent à travailler en toute intelligence avec les pays africains sur ce sujet, parce que sinon, la Chine, elle, va plus que jamais profiter de la brèche ouverte. On le voit notamment, par exemple, à Dakar, le grand musée des civilisations qui a ouvert, il a été entièrement financé par la Chine. C'est également le cas de l'Opéra d'Alger. La Chine qui, évidemment, se trouve un petit peu en dehors de ces querelles entre anciennes puissances coloniales et les pays africains, et qui se permet, là, en finançant, évidemment, ces grandes infrastructures, de mettre un pied encore plus dans l'économie des pays d'Afrique.
Donc l'Afrique qui se prépare, hein, vous le dites, Dakar, Abidjan, il y a N'Djamena aussi, Bamako, Abomey, Yaoundé, Kinshasa, Libreville, qui ont fait sortir de terre ces dernières années des musées aux standards internationaux et qui ont rénové d'anciens et ont noué de nombreux partenariats européens pour former conservateurs, chimistes, guides et services de sûreté. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, Antoine Pecker, il y a une actualité finalement très variée, hein, ce qui concerne l'art, l'art africain qui ne représente encore que, parle sous votre contrôle, 0,1% des enchères mondiales. Mais il y a un souffle africain qui secoue aujourd'hui l'ensemble du marché de l'art.
Ah mais qui est incroyable, il est venu apporter l'art africain. Et également, mais alors ça c'est un autre sujet, mais on voit aussi qu'il est très important, l'art afro-américain aux États-Unis. Ces formes d'art connaissent un essor incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on y voit un engagement politique très fort, beaucoup plus fort parfois par rapport à une forme de timidité qu'on peut avoir chez des artistes occidentaux, ou ce qui est également le cas d'ailleurs en musique ou dans d'autres formes d'expression artistique. Il y a aussi un choix de couleurs, de compositions qui explose et qui trouve un écho aujourd'hui très fort dans le monde de l'art. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique d'exposition très forte. Actuellement, à Lille, vous allez avoir une grande rétrospective de William Kendridge, cet artiste sud-africain, et ainsi de suite. Il y a énormément d'artistes africains qui sont maintenant exposés. On a eu de grandes expositions, hein, sur l'art africain de manière globale. Heureusement, on en sort un petit peu pour avoir plus des expositions sur des artistes précis. Il n'y a pas de raison de mettre...
On affine un peu.
Exactement, on affine un peu, parce que les expositions globales, imaginez une exposition globale sur l'art européen, ça n'a quand même pas toujours grand sens. Donc, c'est la même chose pour l'art africain. Maintenant, on commence à mettre en avant Barthélemy Togo, Romuald Azoumé, autant d'artistes qui ont tant de choses à raconter, et pas seulement sur l'Afrique, sur notre monde et sur le geste artistique, parce qu'il y a un geste artistique qui est absolument passionnant. Et effectivement, le monde de l'art s'y passionne. Alors, ce qui veut dire, quand le monde de l'art se passionne, c'est qu'il y a aussi une spéculation derrière. Bien évidemment, ça devient un enjeu économique, politique. Alors, faut espérer qu'ils puissent profiter, évidemment, aux pays qui puissent développer, notamment, on en parlait, toutes ces infrastructures, tous ces musées, pour pouvoir accueillir ces œuvres d'art, non seulement contemporaines, mais aussi les œuvres plus anciennes, dans le cadre du débat sur la restitution, pour que, au bout du compte, surtout, les jeunes et plus jeunes dans les pays africains viennent découvrir l'art dans ces musées, qui ne soient plus réservés juste à une élite. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les pays africains, trop peu dans leur politique, mettent de l'argent sur l'art. Très souvent, c'est de l'argent privé. On voit par exemple au Cap, le plus grand musée aujourd'hui dédié à l'art en Afrique, il est au Cap, c'est le Zeitz Museum, mais qui a été construit par un privé, l'ancien patron de Puma, Joachim Zeitz. Il faut maintenant que ce soit les puissances publiques qui investissent dans la culture en Afrique. C'est absolument prioritaire, notamment pour développer le volet d'action culturelle, c'est-à-dire sensibiliser les plus jeunes dans la plus grande diversité sociale, ethnique, générationnelle à l'art. Ça devient une priorité, d'autant plus qu'il y a un tel champ artistique si passionnant en Afrique qu'aujourd'hui, évidemment, ce sera la plus belle réponse aussi au débat sur la restitution, à la question de la Chine-Afrique, c'est que les pays africains s'emparent eux-mêmes de cette question en créant des infrastructures ad hoc.
Alors, vous avez un chapitre, Antoine Pecker, consacré à Monsieur Bolloré, l'homme d'affaires français, bien connu en Afrique. Et vous posez la question, est-ce que le renouveau du paysage culturel africain passe par Monsieur Bolloré ? On sent une note d'humour derrière cette question. L'homme d'affaires français construit le plus grand réseau de salles de concert et cinéma sur le continent africain, un marché prometteur pour le groupe, mais aussi une manière, dites-vous, de consolider ses liens avec les régimes autoritaires en place. Et vous citez le réalisateur camerounais Antoine Pecker, il s'agit de Jean-Pierre Bekolo, qui à propos de la stratégie africaine de Bolloré dit « C'est un système colonial de transmission des savoirs, on profite de la jeunesse en l'aliénant avec des films de divertissement ».
Effectivement, il faut rappeler que ce livre, cet atlas de la culture, il est né en grande partie de reportages que j'ai fait sur le terrain. Et j'ai notamment pu être à Yaoundé, au Cameroun, pour l'inauguration du premier canal Olympia, de ces salles lancées par Vincent Bolloré, pour voir en fait pourquoi d'un seul coup l'homme d'affaires se lançait dans le champ culturel. Vous pouvez se dire, il était dans la logistique, dans des choses beaucoup plus importantes d'un point de vue économique, mais non, il avait besoin d'aller dans la culture, dans ce champ artistique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte très rapidement que aujourd'hui en Afrique, il y a un essor très important des classes moyennes qui veulent se divertir, bien évidemment, qui veulent aller au spectacle. Or, dans la plupart des pays africains, il n'y a plus les infrastructures. Il y avait les cinémas, beaucoup lancés au moment des indépendances, malheureusement, qui sont tombés en désuétude et les équipements ne fonctionnent plus. Donc, Vincent Bolloré est rentré dans la brèche, comme je le disais avant aussi pour la Chine. Ce sont des intérêts qui ont bien compris là ce que la culture pouvait jouer. Parce que, tout simplement, Vincent Bolloré va, en créant ses équipements culturels, évidemment, créer un lien d'autant plus fort de proximité avec les dirigeants en place. Par exemple, avec Paul Biya au Cameroun, ou encore avec Alpha Condé en Guinée. La Guinée, évidemment, qui est au cœur même de l'actualité ces jours-ci. Et donc, en créant ce lien avec ces pays, très souvent d'ailleurs, je le montre dans les cartes, on est dans des pays très souvent autoritaires, et dans ces pays, l'offre culturelle va donc être sous l'ingérence, d'une certaine façon, de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui a, il faut bien le rappeler, des actifs très importants, à savoir Canal+, qui est extrêmement important en Afrique. On voit qu'au moment où Canal+, en France, a un chiffre d'affaires qui décline. Or, en Afrique, évidemment, c'est un marché en pleine croissance. Il y a Canal+, d'un autre côté. Il y a les marques de disques Universal, notamment tous ces labels d'enregistrement où là aussi la musique africaine est en plein boom. Et il y a le nom de l'Olympia. Olympia, pourquoi ? C'est la mythique salle de concert parisienne qui, elle aussi, appartient à Bolloré. Donc, on le voit, Canal Olympia, c'est une synergie des marques qui a vraiment un but très fort, c'est-à-dire un lien avec les gouvernements sur place et puis permettre cette proximité avec les classes moyennes des pays africains. Mais une fois de plus, c'est pour ça que les puissances publiques africaines ne doivent pas laisser aux mains des privés étrangers l'offre culturelle, au risque sinon d'un manque tout simplement de diversité de l'offre.
Et parce que bien sûr, à travers la culture, on atteint les esprits. C'est cela qu'il faut entendre. Alors Antoine Pecker, on aborde la question des... Enfin non, j'avais autre chose, une autre question à propos de l'Afrique. Alors réponse très rapide si vous voulez bien. Est-ce que l'art se développe de façon égale en Afrique anglophone et en Afrique francophone ?
Alors on voit quand même que dans l'Afrique anglophone, il y a une plus grande importance au niveau de l'offre artistique. Et notamment, j'ai mis une carte en montrant là où se trouvaient les milliardaires en Afrique et les artistes. Et on voit évidemment un lien. Pourquoi ? Parce que très souvent, notamment pour le marché de l'art, on l'a dit, c'est là où il y a les intérêts privés que se trouve aussi l'offre artistique. Il y a ce lien-là. Ça n'empêche pas évidemment qu'en Afrique francophone, il y a quantité d'artistes absolument exceptionnels. Mais voilà, il faut éviter que quelques pays d'Afrique soient les leaders uniques dans leur domaine. Je pense à l'Afrique du Sud, par exemple, pour l'art plastique, ou bien au Nigeria pour le cinéma. On sait combien Nollywood, évidemment, est une industrie extrêmement forte au Nigeria. Mais ça essaime aussi, ce leadership culturel de certains pays peut aussi donner des envies aux voisins d'aller sur ce terrain-là. En tout cas, on voit que l'offre culturelle qui se développe, par exemple, au Ghana, Ghana aussi, autre pays de l'Afrique anglophone, est passionnante. Donc voilà, il ne faut pas que les pays de l'Afrique francophone laissent le leadership culturel aux pays anglophones, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas. Une fois de plus, il y a peut-être un renouveau de la classe politique qui va arriver là dans les prochaines années et qui va mieux prendre en compte le fait culturel, d'autant plus que certains artistes ont envie de prendre le pouvoir, on en a parlé.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors la culture comme outil de séduction, c'est quelque chose de particulièrement vrai dans les pays du Golfe, Antoine Péker, où l'on voit les pétromonarchies décliner leur rivalité géopolitique sur le champ culturel en construisant des équipements absolument spectaculaires, avec des architectes qui sont souvent occidentaux. Vous nous rappelez dans votre atlas que Monsieur Nouvel, architecte, a été sollicité à la fois pour le Louvre à Abu Dhabi. Je vous propose de prendre le relais sur la question et d'autres projets dans la région, ce qui est tout de même assez étonnant. Alors déjà, pourquoi pas des artistes locaux? Est-ce que c'est une façon aussi pour ces pays du Golfe, encore une fois, de tisser des liens particuliers avec l'Occident sur tout un éventail de domaines?
En fait, il y a deux buts. C'est un, effectivement, tisser des liens extrêmement étroits avec les pays occidentaux, notamment la France, qui a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre,
on cherche à séduire la France.
Notamment avec le Louvre, évidemment, installé à Abu Dhabi ou d'autres infrastructures culturelles. On pourra parler également de l'Arabie Saoudite. Et puis de l'autre côté, c'est par contre mettre de côté absolument toutes celles et ceux qui, dans ces pays, pourraient très bien dynamiser l'offre culturelle, mais qui pourraient aussi, cette population, cette classe moyenne dans les pays du Golfe, pourraient se révéler un petit peu rebelles si on les mettait aux manettes des institutions culturelles. Il y a toujours le risque de réplique des printemps arabes dans ces pétromonarchies du Golfe. Donc d'un côté, on tait toute velléité d'opposition en mettant de côté la classe moyenne du pays, et de l'autre, eh ben, on tisse des liens de proximité avec les pays occidentaux. L'exemple du Louvre à Abu Dhabi, il est frappant parce que, je rappelle, la marque, c'est 1 milliard d'euros qui a été donné à la France par l'achat de cette marque. Donc évidemment, au moment où la culture en France, elle a besoin d'argent, elle a besoin de cash, c'est une manne inespérée, bien évidemment. Donc on achète finalement les puissances occidentales par ce biais-là. Derrière, évidemment, les puissances occidentales qui vont taire un petit peu leurs critiques envers des pays qui ne respectent pas ou peu, en tout cas, les droits de l'homme et sur ces registres-là. Donc on voit vraiment combien en achetant la culture occidentale, finalement, il y a un nouveau rapport qui se crée entre les pays du Golfe et l'Occident. Et malheureusement, tout cela s'est fait dans une opération de communication incroyable, voyage de presse. On a vu tant de journalistes débarquer au Louvre à Abu Dhabi, s'extasier devant la beauté de l'architecture de Jean Nouvel, des voyages de presse. C'est-à-dire que les journalistes, il faut bien le dire, c'est une honte en France qu'aujourd'hui, les journalistes sont payés par des organismes de communication eux-mêmes rémunérés par les États pour faire des grands voyages, aller tout frais payés dans des hôtels 4-5 étoiles à Abu Dhabi et dire évidemment que du bien, on peut dire que du bien dans ce cadre-là, de la création d'un musée. Un musée qui est créé juste en face de la base militaire française, c'est évidemment tout sauf un hasard. Donc en tout cas, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que ces pays du Golfe ne cherchent en aucun cas à développer une offre culturelle pour leur propre population. Ce n'est pas le but. D'ailleurs, le moment qui les intéresse, c'est l'étape de la construction du projet. C'est pour ça que ils mettent tant de temps à sortir de terre ces musées, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut créer, évidemment, faire du buzz, faire du lobbying politique en particulier. C'est là que tout se joue. Une fois qu'il est ouvert, le musée, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas développer des politiques d'action culturelle ou autre. Le but, c'est pas du tout ça, absolument pas. C'est vraiment juste de permettre de nouer ces liens étroits avec les puissances occidentales, ravis évidemment de retrouver des débouchés sonnants et trébuchants pour les puissances culturelles.
Géopolitique.
Alors, les relations culturelles qui sont aussi, Antoine Péker, un écran pour permettre d'autres relations de se développer. Je pense à ce que vous évoquez dans votre atlas, puisque vous avez un développement spécial à propos de l'Arabie Saoudite. D'abord, vous rappelez que le premier déplacement après l'affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné en Turquie. Donc, premier déplacement d'un Français en Arabie Saoudite après cet assassinat et tous les rebondissements qu'il a eu dans le monde, fut celui de Franck Riester, ministre alors de la la culture français. Il y avait cette exposition à l'Institut du monde arabe sur l'Arabie saoudite. Enfin voilà, les enjeux. Et puis ça permet aussi, on en revient à la question chinoise peut-être, vente d'armes et vente d'œuvres d'art, ou en tout cas échange culturel. On retrouve un petit peu ce schéma sur l'Arabie saoudite.
Moi, je suis effaré sur l'Arabie saoudite. J'ai passé beaucoup de temps à enquêter, notamment pour Mediapart et pour d'autres médias sur ce sujet, et notamment le fruit de différentes recherches se retrouve dans le livre. J'ai été effaré, effectivement, de voir, à travers le projet Alula. Alula, c'est donc ce site situé au nord-ouest du pays, qui devient aujourd'hui le terrain de jeu de la France, avec notamment un organisme dédié. Mais en fait, c'est juste un alibi, c'est-à-dire la culture est un cheval de Troie, avec derrière des intérêts, bien sûr, géostratégiques, politiques, économiques. C'est Gérard Mestrallet qui dirige l'agence dédiée à Alula. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est
ancien président de Engie, on est d'accord.
Exactement. Donc, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que la culture n'est qu'un alibi. C'est vraiment un pur cheval de Troie. Parce que pour MBS, aujourd'hui, qu'est-ce que ça permet? En fait, en montrant cette ouverture culturelle, d'un seul coup, il se donne une belle image auprès des puissances occidentales. Une fausse bonne image. Parce qu'en même moment, lisez les rapports d'Amnesty International, c'est très clair que la répression n'a jamais été aussi violente qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite. Alors oui, moi je suis aujourd'hui effaré de voir ces artistes, par exemple comme Juliette Binoche, ces actrices qui se permettent de signer tous les manifestes pour dénoncer les politiques, pour l'écologie, signer avec Aurélien Barraud, tant de manifestes. Et de l'autre côté, aller à Jeddah, être marraine d'un festival du film en Arabie Saoudite. J'avais demandé un entretien avec elle, j'attends toujours sa réponse. Aujourd'hui, il y a un silence des artistes ou une complicité des artistes qui, sous prétexte de dire « Ah mais la culture va arranger être cet élément de langage qui est d'un basique et absolument médiocre, de dire « Ah mais la culture va arranger le lien entre les pays » et ainsi de suite », absolument pas. Ils se trouvent complices des pires régimes autoritaires, tout simplement pour avoir des cachets et des rémunérations extrêmement élevées que peuvent leur offrir ces pétromonarchies.
Alors, on revient très rapidement à l'Asie. En fait, il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission, évidemment passionnante, parce que vous connaissez magnifiquement votre sujet et vous nous faites entrer dans plein de thématiques très différentes. Je voulais qu'on parle de l'Asie. Alors, ce que j'ai relevé, c'est que vous parliez pas du Japon, mais on va peut-être pas revenir sur cette question. Vous évoquez la Corée du Sud, sixième marché de la musique au monde. Et puis, pour terminer, Antoine Péker, j'aimerais qu'on parle de l'après crise sanitaire, avec, alors, on touche là à un secteur qui risque d'être extraordinairement et terriblement sinistré. Est-ce qu'il s'en relèvera jamais?
C'est là où on voit une grande différence de part et d'autre de l'Atlantique, justement. Aujourd'hui, en Europe, il y a évidemment une relance très timide, très compliquée, mais qui peut quand même avoir lieu. Pourquoi? Parce que il y a de l'aide publique pour la culture, ce qui permet notamment aux salles de spectacle, à un grand nombre de salles, d'ouvrir avec des demi-jauges. Même les salles qu'on dit privées bénéficient de dispositifs tels les crédits d'impôt, bref, d'aide de l'État. De l'autre côté des États-Unis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que aujourd'hui toutes les institutions culturelles sont fermées pour plusieurs mois, certaines jusqu'en juin prochain. C'est le cas à Broadway, à New York, c'est le cas également à Los Angeles, partout aux États-Unis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui le modèle de l'économie tel qu'il est aux États-Unis montre très clairement ses limites, c'est-à-dire que les salles ne peuvent ouvrir avec des demi-jauges, tellement ils sont obligés d'avoir un certain niveau de ressources propres et surtout ils sont dépendants de la philanthropie. Or la philanthropie aujourd'hui, on voit, et c'est même le cas d'ailleurs en France, que le mécénat culturel, il se replie, parce qu'il est très dur quand on lance un plan social à côté de financer la culture. Et puis surtout, si on aide, un mécène va davantage aujourd'hui aider la santé, la recherche, plutôt que les arts. Donc il y a vraiment un temps très incertain pour la culture, là où il est dominé par les intérêts privés, les intérêts philanthropiques. Et il faut surtout rappeler aussi que la philanthropie aux États-Unis, ça va être principalement le premier domaine soutenu par la philanthropie, c'est la religion, bien avant la culture, et donc que la culture risque encore plus d'être reléguée après cette crise sanitaire. Et surtout, il faut penser aux élections américaines qui vont arriver. Si jamais Donald Trump repasse, je pense que tout le paysage culturel risque de connaître une période absolument dramatique.
En tout cas, la crise sanitaire risque bien, à vous entendre, Antoine Péker, de rebattre les cartes culturelles dans le monde. Antoine Péker, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en politique et économie de la culture, directeur de la rédaction de la Lettre du Musicien et auteur donc pour ce qui nous intéressait aujourd'hui de cet atlas de la culture intitulé « Du soft power au hard power, comment la culture prend le pouvoir » aux éditions Autrement, et vous êtes absolument passionnant. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À samedi prochain.